On va revenir maintenant sur l'après-événement de la finale gagnée par le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire la casse, les gardes à vue, les interpellations et maintenant les comparutions immédiates. On va retrouver Mélanie Bertrand, justement, au Palais de Justice de Paris, pour savoir où en sont ces comparutions, qui est passé devant le juge et quelles sont les peines.
Alors les peines, on va les avoir sans doute dans quelques minutes pour les premiers dossiers qui ont été jugés depuis le début de l'après-midi. Ici, il y a 3 salles du tribunal judiciaire qui sont dédiées à ces comparutions immédiates. Moi, dans la salle où je me trouve, il y a 5 hommes qui ont été jugés depuis 13h30. Il y a eu par exemple Anis C. Il a 41 ans. Il est jugé pour avoir volé des dizaines de bouteilles d'alcool dans un supermarché rue de la Boétie dans le 8e samedi soir. Je ne savais pas que c'était un magasin. Il faisait très noir, dit-il, un peu maladroitement à la barre. Le procureur a demandé pour lui 12 mois de prison ferme parce qu'il est en état de récidive. Il y a aussi le cas de cet étudiant en master de maths, 23 ans, Hugues B, soupçonné d'avoir lancé des mortiers d'artifice vers les forces de l'ordre samedi soir. Je suis désolée pour ce que j'ai fait, c'est très bête au vu des conséquences. Et puis il y a aussi le cas de Jérémy F. Lui, il a 18 ans, lui aussi a été interpellé alors qu'il visait les forces de l'ordre avec un mortier, ce qu'il nie, debout dans le box avec son maillot du PSG. Il dit qu'il visait en l'air. Je me suis laissé emporter par l'euphorie. Le procureur a demandé 12 mois de prison avec sursis probatoire. On écoute son avocat.
On en vient à lui proposer un mortier et que dans l'euphorie et amusé par ça, il en vient à tirer vers le ciel. Immédiatement après, il est interpellé et poursuivi pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. On se retrouve en fait dans un dossier où on a juste un procès-verbal relativement imprécis, relativement peu identifiant, qui vient fonder une condamnation pour des faits qui sont quand même gravissimes.
Voilà, les comptes rendus d'audience de Mélanie Bertrand au Palais de Justice. Justement, une avocate de prévenu qui est avec
Maître
nous.
Bridge qui est avec nous. Merci d'être là, puisque vous étiez donc au tribunal. Oui. C'était hier, je crois, il y avait 2 prévenus que vous défendiez, jugés en comparution immédiate. Quels sont les profils pour qu'on comprenne bien?
Alors hier, moi j'ai défendu 2 jeunes, 20 ans et 22 ans. Très bien insérés dans la société.
Pas de casier?
Pas de casier. Vraiment des primos... Aucun problème avec la
justice. Qu'est-ce qu'on leur reprochait ?
Alors, on leur reprochait des insultes au moment d'une interpellation, en fait. On leur reprochait également une rébellion. Et pour un, des violences, mais qui ont été requalifiées.
Alors, Raphaël et Hichem, on a mis à l'antenne leur nom, leur prénom plutôt, et précisément...
Jugé pour outrage et violence sur un policier, 12 mois de prison, dont 6 fermes à aménager, et pour l'autre, 10 mois de prison avec sursis pour vol avec violence et outrage, quand même.
Pas du tout vol avec violence. C'était surtout une rébellion qui était consécutive à une interpellation et il y avait une suspicion en effet de tentative de vol, mais les faits se sont passés d'une manière tellement rapide au Trocadéro qu'en fait il n'y avait absolument pas d'éléments suffisamment.
Ah, ça c'est ballot quand même, parce qu'à chaque fois c'est rapide, c'est par inadvertance, je me suis trompé, j'ai été entraîné, je ne savais pas ce que je faisais là, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a poussé. Enfin, il y a que des innocents à chaque fois.
Alors vous savez, la culture du doute ce serait intéressant de réintégrer dans les formations magistrats, policiers, avocats, grève, toute profession judiciaire confondue, ce serait bien de réintroduire la culture du doute. Parce que vous savez, les certitudes, ça, et les conclusions hâtives, c'est pas toujours.
Que disent vos clients?
Alors les clients, ils ont expliqué qu'en fait, ils sont venus au Trocadéro et l'autre a traversé la place Saint-Michel à un moment, bien sûr, de victoire fédératrice pour le PSG, où ils retrouvaient des amis. Ils étaient là pour fêter un moment de magie du sport, comme on en connaît. Le monde de la culture, on peut en parler aussi, messieurs. Parce que vous savez...
Non, mais je voudrais savoir, est-ce qu'ils nient les faits? Est-ce qu'ils reconnaissent ces faits?
Ils ont reconnu au moment d'une interpellation qu'en effet, ils ont eu des propos d'accord, qui sont reprochés, qui ont dépassé un peu leur pensée, parce que les interpellations, il faut savoir qu'elles sont très musclées. Ils sont en général, ils arrivent, parce que lorsqu'on est pris dans l'étau, c'est ce qui était leur cas, ce sont des jeunes insérés qui sont là pour s'amuser. Ils sont pris dans l'étau, ils sont à un moment donné, en effet, à une place où moi et vous, nous n'étions pas. Alors, c'est vrai qu'il y a eu...
Des victimes. Puisque vous m'interpellez, moi j'étais porte de Saint-Cloud.
Oui.
Et effectivement, entre d'un côté les policiers et de l'autre des bandes de jeunes qui jetaient des projectiles et oui. des mortiers d'artifice.
Oui. Ouais. Non, il n'y avait pas de.
Alors, là, il n'y en avait pas, là.
Aucun profil de mortier. D'ailleurs, j'ai discuté avec des confrères cet après-midi au Palais de Justice.
Mais peut-être
parce
pas
que
forcément arrêté les bons, ce que vous dites.
Il n'y avait pas énormément. Il n'y a pas eu, parmi les personnes interpellées, beaucoup de personnes ouais. qui ont tiré au mortier. Il y en a eu quelques-uns. Et bien sûr, ceux-là, je pense qu'ils seront. Non, mais ils auront une peine juste à la hauteur. Vous savez, une peine pour ne pas récidiver, il faut qu'elle soit justement acceptée et qu'elle puisse permettre une conciliation entre le fait qu'il est reproché et la personnalité de la personne qui, en fait, accepte de réparer la société. Autrement, il y a une récidive assurée. C'est peut-être le cas de ce monsieur qui a volé les bouteilles. Une récidive, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être, je dis bien, le sens de la peine n'a pas été entendu.
Donc c'est la faute de la justice,
non,
en fait.
Non, je dis que la justice doit être vaillante. Oui. Et la justice doit être incarnée aujourd'hui, ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas dans tous les métiers, parce qu'il faut se remettre en doute. Les avocats, on se remet en doute. Les magistrats aussi. On se remet en doute au niveau de la formation des policiers. On va peut-être en parler aussi.
Et pas les policiers. Ils se remettent pas en doute, les policiers.
Et non, mais au niveau d'une formation...
Alors, on va en parler justement avec ma maître. Voilà, on va écouter Jean-Christophe Couvi.
Concernant les interpellations, d'accord. Je pense qu'en effet, il pourrait y avoir une formation peut-être
Jean-Christophe Couvi, je comprends dans ce que dit notre avocate, c'est qu'on n'a pas forcément arrêté les bons à chaque fois.
Il y a des erreurs judiciaires, de toute façon.
Non, mais je pose sincèrement la question, parce que c'est compliqué dans une... Il y a la foule, il faut essayer d'interpeller effectivement les personnes qui s'en prennent vraiment aux policiers, qui commettent vraiment des pillages. Est-ce que c'est parfois pas celui qui court le moins vite qui se fait attraper?
Je pense que les policiers ont tous besoin d'aller chez Afflelou, parce qu'on a tous besoin de lunettes. À mon avis, on voit pas trop
Est-ce que vous avez le temps de faire des enquêtes? Parce que c'est une information immédiate.
C'est du flagrant délit quand on voit une personne qui nous jette des objets. Qui utilisent des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre, on intervient, on interpelle, c'est du flagrant délit. Et après, effectivement, on fait un procès verbal, une mise à disposition, etc. Votre client, Hichem S, là, excusez-moi, c'est quand même un bon client, parce que quand on dit à un policier, si je vous retrouve, je vous tue, je nique ta mère, il a craché sur un collègue, et après, et en plus, il a pris une ITF, interdiction du territoire français de 5 ans. Bon, il partira pas, hein, je vous rassure, on est en France, et il a pris 10 mois de sursis simple.
Il travaille à Barcelone. Il est déjà de retour pour exécuter son contrat de travail.
Ah bah c'est très bien. Personnes donc insérées. Il ne reviendra plus jamais en France. Alors il a interdiction de 5 ans.
Bah écoutez, il y a d'autres matchs sportifs. Je pense qu'il a compris parce que justement,
il voulait voler un collier d'ailleurs. Donc
il a compris qu'en effet, à un certain moment, peut-être qu'on se doit de ne pas faire la fête d'une manière faire la fête quand on est jeune. Parfois, quand on est plus âgé, on perçoit mieux les limites. Ce sont des jeunes qui étaient
là, vous êtes dans la culture de l'excuse, maître. À 20 ans, 22 ans, on n'a pas 15 ans déjà, on est adulte. Je suis désolé.
Oui,
20 ans et 22 ans.
Et on connaît
la valeur des choses. Là, la culture de l'excuse, est-ce que finalement, c'est pas la meilleure façon de
absolument malveillante vis-à-vis des policiers. C'est ce qui me donne une conviction aujourd'hui pour échanger avec vous.
Je vais vous dire, vous êtes dans votre rôle, je suis dans le mien. Donc, moi, je suis pas là pour les défendre.
Est-ce que vous trouvez que les peines depuis hier sont suffisantes?
On va dire les choses. Il y a 178 policiers. Qui est blessé, personne n'a dormi en prison. Voilà, personne. Il n'y en a pas un qui a dormi en prison.
Mais la réponse pénale est aménageable.
Ah, mais bien sûr.
Et ce qu'il faudrait peut-être que la justice entende aussi, c'est que pourquoi on ne pourrait pas prononcer des travaux d'intérêt général qui permettraient, en effet, d'apporter une certaine réparation. Justice est sociale avant tout.
Oui, les sociales, mais moi aussi, puisque c'est que des jeunes désœuvrés ou qui ont des problématiques,
pas
etc.
Forcément,
alors, 98% de garçons, un tiers de mineurs et 85% de Français.
Il y a plein de plages à nettoyer, il y a plein de forêts à nettoyer aussi. Donc, s'il faut les occuper, on peut les occuper, vous savez, il n'y a pas de souci.
Souvent, ces travaux d'intérêt général ne sont pas appliqués parce qu'il n'y a pas les moyens.
C'est très compliqué, en fait, parce qu'il faut...
C'est pas du pipeau, il faut des moyens pour...
Attendez que monsieur Couvi...
On va essayer d'écouter tout le monde.
Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 178 policiers qui ont été blessés, c'est plus 747%, puisqu'il y en a quand même les chiffres, par rapport à l'année dernière, en 2025.
Et combien de blessés collatéraux aussi, par rapport à...
Moi, je ne fais pas le compte, mais le blessé...
Il y a même un mort.
Non mais ça c'est pas les policiers.
Il y a des
scooters sur le périphérique.
Moi je suis motard, je fais de la moto, je fais attention.
Je suis tombé dans la Seine. Bon alors, je voudrais qu'on écoute aussi et on va écouter tout le monde. La députée Edwige Vias qui est avec nous, députée de la Gironde, vice-présidente du Rassemblement National. Alors le RN est monté au créneau très rapidement en voulant faire des propositions, notamment en impliquant les casseurs et les faire payer, si j'ai bien compris.
Oui évidemment, c'est pas une proposition qui est récente. Hélas. À chaque fois, c'est pareil, à chaque événement festif, à chaque 14 juillet, à chaque 31 décembre, on a toujours des casseurs qui sont galvanisés par un sentiment d'impunité. Moi, je voudrais commencer par avoir une pensée émue pour les policiers qui font un travail remarquable. Les 178 qui ont été blessés, dont 5 à Bordeaux, dans mon département, la Gironde.
Oui, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, il y a eu des incidents.
Plus aucun territoire n'est épargné par ces violences systématiques. Exactement. Et là, ce que j'ai commencé à voir, en fait, les Français attendent cette fermeté. Et oui, le principe du casseur-payeur que nous voulons instaurer, eh bien, c'est un principe qui est attendu par les Français. Là, ce que l'on voit à la lecture des premiers comptes rendus d'audience, je ne sais pas si c'est le même Hichem dont vous parliez tous les deux tout à l'heure. Moi, ce que je vois, donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est poursuivi pour vol avec violence, qui fait des outrages et des violences sur un agent de la police, qui arrache une chaîne en or à une victime, qui profère des menaces de mort contre un policier, qui de surcroît est étranger, eh bien en fait, qu'est-ce qu'il a ? Un petit sursis. Avec le Rassemblement National au pouvoir, cet étranger, c'est dehors et il ne reviendra pas en France. Parce que là, il a un petit sursis et 5 ans d'inéligibilité. Autant dire qu'il s'en fiche d'avoir 5 ans d'inéligibilité.
Il est à Barcelone. Voilà.
Voilà. Donc vraiment,
donc pour vous, c'est pas suffisant. Il aurait dû aller en prison, c'est ça que vous dites ?
Ben en fait, il aurait dû être expulsé.
Et voilà. Il est retourné à Barcelone.
Il y a eu un problème dans la stratégie mise en place par le ministre de l'Intérieur.
Mais oui, enfin, pardon, mais le ministre de l'Intérieur est dans le déni. Il nous dit que tout s'est globalement bien passé, mais ses prédécesseurs, tous les ministres de l'Intérieur macronistes, ont été dans le déni. Pourquoi ? Parce que reconnaître qu'ils sont incapables d'endiguer cette violence, eh bien, c'est reconnaître leur propre échec. Et là, vous doutez bien qu'à quelques mois d'une élection présidentielle, eh bien, ils ne vont pas faire leur mea culpa.
Alors, attendez, mais c'était pas la bonne stratégie, monsieur Couvi. Parce qu'on a un policier avec vous, c'était pas la bonne stratégie.
La stratégie, c'était quand même de mettre du monde, on a bien compris. Parce que d'ailleurs, on a rappelé les policiers sur leurs vacances, sur leur temps de repos, etc.
22 000 policiers
pour gonfler les chiffres et pour occuper le terrain. Sauf qu'après, en fait, vous êtes dans du rétablissement d'ordre, en fait. C'est pas du maintien de l'ordre classique, c'est les violences urbaines. Et la stratégie, nous, on le voyait sur le terrain, nos collègues nous disaient, déjà, on manquait de moyens de grenades, etc. On avait des instructions, mais je suis désolé, on a une hiérarchie qui de temps en temps godillait un petit peu dans les ordres. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous subissez pendant une heure des projectiles, etc., et que vous n'allez pas au contact, bah, vous vous blessez. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de policiers blessés.
Donc il y avait des consignes
de fermeté du ministre, et au fur et à mesure où on descend, c'était plus du tout la même consigne.
Au fur et à mesure où on descend.
Dans la hiérarchie
policière. Quand dans un appel policier, quand vous faites l'appel pour être présent et qu'on vous dit, alors vous utilisez la force, mais surtout pas de violence. Ouais. Donc je ne sais pas comment on fait le distinguo.
Enfin, c'est pas le ministre qui a autorité en disant voilà quelle est la stratégie.
Non, mais le ministre, il donne des instructions et après, il y a entre les deux, il y a une chaîne hiérarchique qui est là pour expliquer, pour mettre en place une stratégie, pour diriger des troupes et donc pour faire des interpels ou pour aller aux confrontations.
Ce qui m'a frappé,
et ça, c'est très compliqué.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est la présence importante quand même de ces mortiers.
Mais c'est
d'artifice.
Alors vous n'êtes pas pour faire
censé,
la fête, vous n'avez
des mortiers. Non, mais on est censé les avoir interdits. Ils sont quand même assez costauds, ces mortiers.
Vous allez en Allemagne, en Belgique,
ça ressemble à des armes.
Vous en achetez
sur Internet.
Vous faites livrer, vous en avez à la maison.
Donc en fait, quand on dit on va interdire, c'est pipeau. Parce qu'il y a eu des mesures.
C'est le sens de la loi, sauf qu'en fait, il y a plein de moyens de contourner la loi. C'est le sport national en France.
Mais ce qui veut dire que si les ordres étaient plus clairs, vous auriez pu interpeller davantage de personnes, neutraliser davantage.
Pas forcément interpeller, parce qu'en fait, l'interpellation.
Empêcher qu'il y ait autre chose.
Le but d'un maintien de l'ordre, enfin d'un rétablissement d'ordre, c'est de rétablir la paix sociale, c'est de rétablir l'ordre. Et donc, des fois, c'est aussi d'aller repousser les personnes et pas forcément des interpellations. On fait beaucoup d'interpellations parce que, depuis Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, ça a été un peu la mode, il fallait donner du chiffre. On gonflait les pectoraux, on allait sur des plateaux pour dire on a fait plus tant de pourcents d'interpellations, etc. Sauf qu'en fait, le rôle du policier aussi, à un moment donné, c'est de protéger les biens et les personnes, et c'est de ramener la paix sociale. Et pas forcément faire que des interpels. La preuve, derrière, vous allez voir, encore une fois, il n'y aura que du sursis, il y aura des espèces de TIG, on va leur dire, vous restez à la maison parce qu'il y a des aménagements de peine, vous allez pouvoir jouer à la PlayStation.
C'est une
ça va être ça,
pénale.
Mais vous verrez, ça va être ridicule.
Ce qui manque peut-être, c'est la réparation.
Qui va
payer la casse ? Quand on pille un magasin, on détruit un abribus, comme on voit sur ces images sur
Jordan
BFM TV.
Là, il voulait couper les subventions. Les allocations familiales pour les familles de casseurs.
Le
Premier ministre, il est revenu dessus cet après-midi, il a dit qu'il ne voulait pas la suspension et qu'il voulait que ça aide à rembourser les dégâts.
On prenne une partie.
Voilà, qu'on les transfère.
Justement, on va voir avec Nargis Hadji maintenant ce que dit la loi. parce que entre vitrines de magasins éventrés, mobilier urbain détruit, stations de vélos vandalisées, on se demande bien qui est responsable et qui paye, quoi.
Oui, vous vous souvenez peut-être d'une formule qui a fait mouche, celle de Gabriel Attal. Nous sommes en janvier 2024, il vient tout juste d'être nommé Premier ministre par le Président de la République et il a ces mots lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Écoutez.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, mais qui paye ? En théorie, les casseurs. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, la loi anti-casseurs est adoptée. L'idée est simple, faire payer les auteurs pour les dégâts qu'ils causent. Mais vous allez le voir, c'est très difficile à appliquer pour deux raisons. La toute première, eh bien, les identifications, elles sont compliquées. Souvent, les auteurs sont, par exemple, encagoulés. Et deux, beaucoup n'ont pas les moyens de payer les amendes. Un système qui ne punit pas donc suffisamment les auteurs des dégradations. Et c'est justement ce qu'a dénoncé cet après-midi le Premier ministre.
On est sur des dégradations qui coûtent extraordinairement cher à la société. Notre système ne se retourne pas suffisamment vers les auteurs de ces dégradations. Et je pense que cette question doit être regardée désormais rapidement, sans tabou. Je ne suis pas favorable aux suspensions des prestations sociales. Néanmoins, je crois qu'il y a un chemin de bon sens. C'est de permettre à ces prestations sociales, en dehors du reste à vivre, de financer justement ces réparations. La responsabilité individuelle d'un auteur d'un acte de violence, par définition de dégradation, doit pouvoir réparer.
Donc, Nargis Hadji, en pratique, qui indemnise les victimes ?
Les assurances, souvent, à condition d'avoir souscrit les bonnes garanties. Par exemple, un commerçant ou un automobiliste sera remboursé si son contrat couvre ce type de dégâts. Sinon, les frais restent à sa charge. Voilà pour les particuliers. Mais pour le mobilier urbain, par exemple, eh bien, il a largement été pris pour cible ce week-end, mais aussi l'an dernier. Il y a d'abord le mobilier directement géré par la municipalité, les bancs, les lampadaires ou encore les poubelles. La facture des dégradation est payée par la ville, c'est-à-dire par le budget municipal, autrement dit par le contribuable parisien. Mais il y a aussi, les abribus, les kiosques, le mobilier publicitaire géré notamment par l'entreprise JC Déco, le groupe français spécialisé dans la publicité urbaine. Et c'est donc l'entreprise elle-même qui s'occupe avec son assurance. Enfin, quid du Paris Saint-Germain ? Avant la parade sur le Champ de Mars, le club s'est engagé auprès de la ville de Paris à prendre en charge en intégralité la remise en état des lieux s'il en a besoin, la pelouse par exemple si elle est abîmée.
Merci Nargis.
On constate d'ailleurs que dimanche, ça s'est bien passé au Champ de Mars, la célébration des joueurs, il n'y a pas eu d'incident majeur. Et d'ailleurs, j'entends certains responsables, notamment la France Insoumise, dire mais organisons des fan zones, ça permet de canaliser les violences. Or, la préfecture avait refusé, c'était une demande de la mairie de Paris, avait refusé la fan zone à Paris. La Coupe du Monde démarre dans 9 jours. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre des fan zones, en mettre peut-être plusieurs dans Paris, dans les grandes villes, pour effectivement vous aider peut-être aussi à canaliser les foules?
Effectivement, c'est une réflexion à avoir. Les fan zones, ça se fait même dans d'autres pays étrangers. On en a déjà fait en France.
On a déjà fait.
L'idée quand même, c'est de filtrer, c'est de fouiller les personnes qui rentrent. Là déjà, on aura les vrais supporters, parce que ceux qui arrivent pour casser, ils sont vite éjectés. Et puis derrière, resteront peut-être des casseurs. Et eux, ils seront plus faciles à isoler et à interpeller ou à évacuer. Ça, faut demander au préfet. Ouais. Est-ce que c'est une joute entre le préfet et le maire ? J'en sais strictement.
Oui, même si vous mettez la fan zone le temps du match, ensuite, il y a l'après-match.
Oui.
Et c'est là que ça devient problématique. Oui, c'est comme quand il y a une manif, c'est au moment de la dispersion, de la fin de la manif.
Oui, mais
les éléments qui viennent se greffer.
Une fan zone, c'est comme dans un stade. C'est-à-dire que vous avez une entrée, vous canalisez, vous faites autour une zone, justement, de fouille. Et donc, c'est plus facile après à
canaliser. Oui, mais il y a ceux qui se greffent après, qui viennent à 3-4 pâtés de maison de la fan zone.
Du coup, on peut les détecter en amont et on peut les traiter.
Vous voyez, le Parc des Princes, c'était comme une fan zone samedi soir. Ça s'est bien passé à l'intérieur. Et dès que le match est terminé, il y a eu des incidents, Porte de Saint-Cloud juste à côté.
C'était même avant le match.
Oui, on a voyé qu'ils se positionnaient avant le match, à proximité du parc.
Il faut intervenir tout de suite et éviter justement qu'ils collent au bitume et qu'ils soient là pour derrière
avec vous,
entraîner les autres personnes.
Avec vous au pouvoir, il y aura zéro incident si vous accédez à l'Élysée, Madame Diaz.
En tout cas, les gens qui commettent...
Vous garantissez aux Français zéro incident ?
Ah ben, ce qu'on garantit aux Français, c'est que les racailles qui vont s'amuser à caillasser du flic, à détruire du mobilier urbain, c'est clair qu'ils seront poursuivis, oui, et qu'il y aura une tolérance les renseignements en la matière.
Oui, mais parce
et là,
que
là,
parce que
là regardez, ben non, ils ne le sont pas. Ils sont tous relaxés ou ils ont du sursis, des tiges qui feront pas, des stages de citoyenneté. Moi, j'ai eu l'occasion en tant que témoin d'assister à un stage de citoyenneté. Je vous garantis que
c'est pas une sanction.
Non, parce qu'en fait, le gars, il avait ses pieds sur un siège, il avait même pas enlevé sa casquette
vous
avant d'entrer dans la salle.
Vous serez plus dur, mais oui. En Italie, chez Madame Meloni, il y a eu des émeutes à Naples à l'issue d'un match de foot. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de recette miracle.
Bah en fait, nous, on n'est pas Madame Meloni, hein, déjà, et la France n'est pas l'Italie. Mais là, en fait, la solution de la fan zone, vous vous rendez compte, en fait, le degré de résignation qu'on a atteint.
Ah bah là, avec la Coupe du Monde, il faudra trouver un système de toute
façon. Enfermer les honnêtes gens. En fait, faute de vouloir mettre des frontières au niveau du pays, on va être obligé de faire des frontières à l'intérieur de notre pays, de mettre en fait des points de protection. Parce que nos villes sont nos rues sont devenues à ce point si sûres, parce que à ce point l'État est incapable
d'assurer la protection de ces Français. Il ne faut pas profiter de ce moment de fédération de passion du foot pour faire le chant du RN. Je suis désolée,
madame,
c'est un peu trop facile.
Je suis très respectueuse de votre métier, vous faites votre travail, c'est très bien.
Excusez-moi, mais c'est un peu trop facile.
Politique, et ce que je vois en fait, c'est qu'il y a des honnêtes gens qui payent pour les exactions.
Les réparations, elles ont toujours existé et on a toujours avancé vers on va vers une justice qui doit avec notre bonne décision, avec la confiance qu'on a dans nos magistrats,
les faits se répètent,
avec la confiance dont on a dans une indépendance de la justice, arriver.
C'est pas le sujet.
Vers une possibilité d'une justice terrestre.
Les faits se répètent, maître.
En effet, peut-être que l'incarcération n'est pas la solution.
Ils vont pas en prison.
Ils sont aménageables, mais peut-être beaucoup trop tard. Parce que moi, je vais vous dire comment je pense la justice aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait mettre les moyens pour que ces jeunes qui ont une réponse pénale puissent, en effet, sans attendre, être convoqué devant un juge d'application des peines pour que tout de suite, on mesure ensemble. Parce que l'avocat, il fait quoi? Il accompagne, pas seulement après la compa. Il accompagne bien après. Et ça, vous le savez pas. Et ça, vous le dites jamais. Ils accompagnent les avocats au-delà. Et jusqu'à l'exécution. Et le problème, c'est qu'on est on est convoqué parfois 6 mois, 1 an. Pourquoi? Parce que les moyens ne sont pas là.
Non, mais vous avez raison, il n'y a pas assez de moyens.
Il
n'y
a pas de vision de la justice. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un problème de stratégie, de mettre du tout répressif qu'il faut appliquer en France.
Donc vous êtes contre tout répressif.
Il faut une vision de la justice. Avec une incarnation de la justice.
Comme
Lino Ventura incarnait à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il faut incarner les valeurs de la justice.
Vous ne voyez pas arriver Lino Ventura.
Lino Ventura, il incarnait.
Bien sûr, vous avez raison.
Vous avez raison.
Je suis désolée. Aujourd'hui, qui crève l'écran? Monsieur Darmanin? Monsieur Bardella?
Eh bien, il faut Ventura à la justice.
Présentez-vous aux élections.
Et Belmondo à l'intérieur.
On y veille. On y veille à monter une équipe.
Merci à tous.
Merci.